Vous écoutez, on lit pour vous.
Les parcs urbains à l'heure de la transition. Un texte de Valérie Simard paru le 5 août 2023 dans la presse. Davantage d'arbres et de diversité, voire de microforêts, et aussi plus de trèfles et de jardins de pluie. Les changements climatiques amènent à repenser l'aménagement des parcs urbains, où le gazon règne depuis longtemps. Avant, même les oiseaux ne voulaient pas venir ici, lance à la blague Yvan, résident du quartier Rosemont qui habite près du parc du même nom depuis de nombreuses années. Jadis un parc ordinaire qui accueillait un module de jeu pour enfants et une grande surface gazonnée servant de terrain de soccer, le parc Rosemont a été complètement transformé. À la fin du mois de juin, les résidents du quartier ont pu découvrir cet espace renouvelé de 15 000 mètres carrés aménagé en trois zones. La place, où se trouve le chalet qui sera rénové, la clairière, constituée d'un parterre de trèfles, de modules de jeu en bois favorisant le jeu libre, de jeux d'eau et d'un anneau de glace en hiver, et le boisé urbain, une microforêt où de jeunes plants ont été mis en terre à haute densité. Une rivière sèche et un jardin de pluie, installés au point le plus bas du site, aident à recueillir les eaux de ruissellement. Ce parc s'inscrit dans un changement de posture adopté pour atténuer les impacts des changements climatiques. Dans son plan directeur de biodiversité, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie dit viser à ce qu'en 2040, la population jouisse d'un contact quotidien avec la nature. Pour ce faire, elle compte accroître la biodiversité sur son territoire en bonifiant les habitats existants, en en créant de nouveaux et en les connectant ensemble. Une microforêt qui promet. Environ 400 arbres et arbustes ont été plantés dans la microforêt du parc Rosemont, la cinquième dans l'arrondissement. D'avoir une forêt comme celle-là a plusieurs avantages, souligne Audrey Boulanger-Messier, ingénieure forestière à l'arrondissement. Avec sa structure complexe et étagée, la microforêt favorise la biodiversité. À l'échelle individuelle, les arbres peuvent intercepter une certaine quantité de particules fines dans l'air, réduire la quantité d'eau de pluie dans le réseau municipal et créer de l'ombrage. L'ombrage créé par les végétaux a plus d'avantages que celui des bâtiments parce que lorsqu'il transpire, l'arbre rafraîchit l'air également, précise-t-elle. Selon Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine, il est nécessaire de repenser la forêt urbaine qui, comme les humains, est affectée par les changements climatiques. Pour la ville de Montréal, il y a le défi d'augmenter la canopée, en parc comme sur rue, à un moment où de nombreux arbres ont été décimés par la grille du frêne. Dans 20 ans, on aura encore plus besoin des arbres. Et si on ne fait rien, on n'en aura pas plus. Il faut augmenter la forêt urbaine en quantité de canopée, mais aussi s'assurer qu'elle sera encore là dans 20 ans, affirme Alain Paquette. Cette résilience passe par la diversité. Ainsi, les espèces plantées au parc Rosemont ont été sélectionnées en fonction d'une diversité fonctionnelle. En ayant une plus grande diversité, on a une plus grande diversité de réactions, explique Audrey Boulanger-Messier. Il y a certains arbres qu'on va perdre en fonction des aléas climatiques, mais la majorité va bien s'en sortir. On est prêt à tout en plantant de tout. Avec l'engouement récent des municipalités pour ce concept lancé par le botaniste japonais Akira Miyawaki, on voit pousser ces microforêts dans divers arrondissements montréalais et dans des villes comme Repentigny et Candiac. Mais des défis se posent. Le remplacement doit être bien choisi afin de ne pas diminuer le sentiment de sécurité des usagers. Un équilibre doit aussi être trouvé entre les plaines de jeux libres, qui permettent la pratique d'activités sportives, les espaces en gestion différenciée où des herbes hautes sont laissées et les zones densément boisées. Si on s'arrêtait seulement aux services écosystémiques, remplir nos parcs avec des arbres devient une évidence. Mais il faut que les gens puissent se rencontrer, faire des activités sportives, souligne Alain Paquette. Jouer au frisbee, ça se fait très mal dans une forêt dense. On ne va pas remplacer nos parcs gazonnés par des forêts semi-naturelles. Mais entre les deux extrêmes, il y a plein d'options, entre autres ces fameuses mini-forêts. Vous écoutez « Les parcs urbains à l'heure de la transition », un texte de Valérie Simard paru le 5 août 2023 dans la presse. Quand on rencontre les citoyens, ils veulent 200 choses, remarque Félix Champagne-Picotte, chef de division urbanisme, permis et inspection de Rosemont-la-Petite-Patrie. On se demande, ce parc, quelle est sa vocation? L'objectif est que tous nos parcs soient en transition écologique, mais qu'ils soient différents les uns des autres. Prochainement commenceront les travaux pour le réaménagement du parc Montcalm, où les principes de transition écologique seront poussés encore plus loin. L'idée est de venir créer de petits écosystèmes à travers le parc pour faire revenir les petits mammifères, les abeilles, les oiseaux, expose M. Champagne-Picotte. Vivement de l'ombre. J'ai hâte que la forêt grandisse, a exprimé Suzelle Beaulieu, rencontrée au parc Rosemont alors qu'elle était en train de faire la lecture à sa petite fille Clémence. Dans tous les parcs où il y a des jeux d'enfants, il manque d'ombre. Il faudra toutefois être patient. La plupart des arbres sont encore trop jeunes pour fournir de l'ombre. Il faut s'attendre à de la mortalité aussi dans la microforêt, ce qui est normal, voire positif lorsqu'on cherche à recréer un milieu naturel, indique Alain Paquette. Un parc sans poubelle? Un élément manque cruellement dans le parc Rosemont, selon de nombreux usagers, des poubelles. Au cours de notre visite, une résidente qui promenait son chien, sac de plastique à la main, a exprimé son mécontentement à une représentante de l'arrondissement. Chaque jour, a-t-elle déploré, des citoyens ramassent des déchets qui jonchent le sol. Les poubelles ont-elles été oubliées? Non. C'est un projet pilote de l'arrondissement pour inciter les gens à prendre la responsabilité de leur détritus et à les diminuer. L'arrondissement dit s'être inspiré d'autres endroits publics dans le monde qui ont adopté cette approche, notamment le parc Frédéric Bach à Montréal. L'arrondissement veut s'inscrire comme un agent de changement, affirme Guylaine Désiel, directrice du développement du territoire et des études techniques de Rosemont-la-Petite-Patrie. Il faut communiquer le message et sensibiliser les gens. La transition écologique, c'est l'affaire de tous. Ailleurs à Montréal. Dans d'autres arrondissements aussi, la transition écologique s'invite dans les parcs et les places publiques. C'est le cas de la place des Fleurs de Macadam, dans le plateau Mont-Royal, devenue une place multifonctionnelle inondable, et du parc Dickie Moore, inauguré l'an dernier dans le quartier Parc Extension. D'une superficie de 4000 m², cet ancien terrain vacant compte dorénavant quelques arbres, plusieurs arbustes, un jardin de pluie et des modules de jeux en bois. Il y a des classes d'exercice, des enfants qui jouent dans l'eau, c'est invitant pour tout le monde. Les jeunes enfants, nos locataires, des adultes, des familles, se réjouit Arnold de Fox, l'un des propriétaires de l'édifice locatif voisin. C'est un parc qui a été bien pensé et c'est un merveilleux ajout au quartier. Et un plus aussi d'un point de vue immobilier. C'est certainement un atout d'avoir un parc à côté, comme d'avoir une station de métro, dit Arnold de Fox. Priorité variable. Bien que la ville de Montréal ait fait de la biodiversité et des espaces verts l'une de ses priorités pour accélérer la transition écologique, l'intérêt accordé à la forêt urbaine varie beaucoup d'un arrondissement à l'autre, constate Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. C'est tellement facile de planter des arbres là où les gens en veulent. Il faut les planter là où les gens n'ont pas de voix. Pour beaucoup de Montréalais, la seule nature à laquelle ils ont accès dans l'essentiel de leur vie d'enfant, puis comme jeune adulte, ce sont les parcs autour d'eux. Dans une réponse acheminée par écrit, la Ville de Montréal indique que son plan climat 2020-2030 prévoit la plantation, l'entretien et la protection de 500 000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur et que chaque arrondissement fait sa part pour atteindre cet objectif ambitieux. Quel arbre planter dans sa cour? S'il existe un portrait assez précis de la forêt urbaine qui se trouve sur l'emprise publique montréalaise, on en sait assez peu sur les arbres qui ornent les terrains privés. Or, c'est en connaissant les espèces qui se trouvent autour de chez soi qu'on peut mieux choisir celles à planter dans sa cour. Méconnaissance. Lorsqu'on lui demande quelles espèces d'arbres les propriétaires montréalais devraient privilégier pour augmenter la diversité de la forêt urbaine, Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, fait un long détour. Les gens pensent qu'on a une connaissance de la forêt urbaine, mais les inventaires qui sont disponibles partout dans le monde, ce sont les arbres publics, c'est-à-dire les arbres qui sont plantés dans l'emprise publique et qui sont donc sous la responsabilité de la municipalité, affirme le titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine. On ne connaît rien de la forêt privée. La forêt privée, c'est la forêt résidentielle, commerciale, institutionnelle. En menant une recherche autour du complexe des sciences de l'UQAM, son équipe a constaté que la forêt privée est très différente de la forêt publique. C'est une bonne nouvelle, parce que les gens prennent justement des décisions différentes, ce qui fait que notre forêt est plus diversifiée qu'on le pensait. Inventaire en cours. Afin de pousser la recherche, l'équipe dresse actuellement un inventaire des arbres dans un rayon de 200 mètres autour de 25 placettes ciblées partout dans la ville. Pour cela, ils ont besoin de la collaboration des résidents de ces secteurs, qui recevront un dépliant informatif les invitant à faire l'inventaire des arbres qui se trouvent sur leur terrain. Cette connaissance-là est fondamentale pour qu'on puisse aller de l'avant et faire des gestes concrets pour augmenter notre forêt urbaine en quantité et en qualité. Idéalement, les gens devraient ne pas planter la même chose que leurs voisins et que la municipalité, selon Alain Paquette. Le chercheur refuse cependant de nommer des espèces. Les gens qui s'occupent d'aménagement paysager savent qu'il ne faut pas répondre à cette question-là parce que dans les jours et les semaines qui suivent, les ventes de cette espèce explosent et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on essaie de faire. On veut augmenter la diversité. On ne veut pas que les gens se lancent sur la dernière nouveauté. Pour s'inspirer, il invite les gens à visiter la forêt urbaine Identité, inaugurée en 2015 tout près du parc Maurice-Richard et de l'avenue Park Stanley, dans l'arrondissement d'Antique-Cartierville. Aux abords d'un sentier en forme de spirale, le public peut découvrir une vingtaine d'espèces d'arbres, moins connues, mais toutes adaptées au milieu urbain, dont certaines à faible ou moyen déploiement pour les petits espaces. 8%. Proportion du territoire de l'agglomération de Montréal occupé par des parcs et espaces verts, 2016. Source, Plan stratégique Montréal 2030. 14. Nombre de microforêts qui seront aménagées à Montréal dans le cadre du premier budget participatif de la ville. Source, Ville de Montréal. C'était « Les parcs urbains à l'heure de la transition ». Un texte de Valérie Simard paru le 5 août 2023 dans la presse.
Arrêtez de chialer contre Meta et agissez. C'est le temps de revenir à la source d'information. Une chronique signée Yasmine Abdel-Fadel parue le 10 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous l'aurez remarqué, Meta ne permet plus le partage des articles et des chroniques médiatiques sur ses plateformes. Ainsi, l'habitude que plusieurs ont développée de s'informer via les partages sur les fils d'actualité est bousculée. On peut protester contre cette pratique. On peut les boycotter lorsque vient le temps d'investir en publicité et on peut chialer tant qu'on veut devant ces décisions. La vérité, c'est que nous avons une responsabilité individuelle qu'il est grand temps d'assumer. Nous avons trop longtemps laissé la place aux géants du web pour déterminer ce qu'il est pertinent pour nous de lire, de savoir et de comprendre. Plutôt que d'être proactifs dans notre quête d'information, on a trop longtemps pris l'habitude de suivre l'actualité en les utilisant comme intermédiaires plutôt que d'aller directement à la source. Dans le temps où nos parents achetaient quotidiennement leur journal papier, ils n'attendaient pas que la caissière du dépanneur leur dise qu'il y a un article pertinent, intéressant ou drôle pour qu'ils achètent le dit journal. Ils allaient directement à la source. Et c'est exactement ce que nous devons collectivement faire. Rajoutez à vos favoris les sites du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Abonnez-vous aux infolettres des médias d'ici pour que vous receviez le résumé de leurs publications. Téléchargez l'application de vos médias préférés et activez les notifications pour être informé instantanément des dernières nouvelles. Ce sont des actions bien plus porteuses et efficaces que de chialer contre le blocage des articles par ces géants sans scrupules qui pensent que tout leur est permis. L'information, l'actualité, la chronique et les réflexions, ce n'est pas le fruit de leur travail. Ils ont réussi à s'imposer comme des intermédiaires et veulent, après nous avoir rendus dépendants, gérer notre consommation. Mais il ne demeure que ça, d'éternels intermédiaires, que l'on peut contourner si on se donne la peine d'agir. C'était « Arrêtez de chialer contre Meta et agissez, c'est le temps de revenir à la source d'information ». Une chronique signée Yasmine Abdel-Fadel, parue le 10 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Climat, crise et catastrophe, un texte de Jérôme Melançon, paru le 16 août 2023, dans l'eau vive de la Saskatchewan. Il est déjà trop tard pour éviter les premières transformations climatiques irréversibles. La cible d'un réchauffement limité à 1,5 degré Celsius ne sera sans doute pas atteinte, mais nous avons encore la possibilité d'éviter le pire et d'atténuer les effets catastrophiques du changement climatique sur plusieurs populations. La cible d'un réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius devrait permettre d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Proposée vers 2008, elle a pu faire l'unanimité au moment de l'accord de Paris à la COP21 en 2015, malgré le fait que la température globale avait déjà augmenté de 1,2 degré Celsius. En 2018, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, présentait un portrait des conséquences du réchauffement de 1,5 degré Celsius. Avant tout, explique le GIEC dans son rapport, nous verrons une température moyenne plus élevée et des périodes de chaleur ou de froid extrême plus intenses, ainsi que des périodes de plus fortes précipitations dans certaines régions et de sécheresse dans d'autres régions. Nous verrons également une élévation du niveau de la mer, donc l'érosion et l'engloutissement de plusieurs régions côtières. L'organisme évoque également la transformation et la perte d'écosystèmes, l'extinction d'espèces, mais également l'endommagement et la perte d'infrastructures, ainsi que la fin de la pêche dans plusieurs régions. Nous voyons déjà les effets du réchauffement climatique sur la péninsule acadienne, dans le golfe du Saint-Laurent et dans les prairies, ainsi qu'au sein des communautés autochtones, notamment sur leurs droits, où l'on cherche notamment à apprendre des savoirs traditionnels pour répondre à la crise. Des effets qui iront en s'empirant. Par contraste, toujours selon le GIEC, un réchauffement de 2 degrés Celsius amènerait les mêmes effets, mais à plus grande échelle, des extrêmes plus importants. 10 millions de gens de plus affectés par l'élévation du niveau des mers, davantage de régions côtières affectées, davantage d'espèces et d'écosystèmes détruits. Tout cela arriverait à 1,5 degré Celsius ou à 2 degrés Celsius, c'est une question de nombre et de gravité. Notons également les conséquences immédiates sur la santé partout dans le monde, étant donné les extrêmes chaleurs et les risques de transmission de maladies, sur la production de nourriture, mais aussi sur un très grand nombre de communautés et peuples, notamment les peuples autochtones. Les effets du colonialisme sur la santé, la difficulté d'accès à l'eau potable, le manque d'accès au logement et la pauvreté sont encore empirés par les changements climatiques. La pauvreté et les préjudices devraient augmenter dans certaines populations à mesure que le réchauffement planétaire s'intensifie. La limitation du réchauffement à 1,5 degré Celsius plutôt qu'à 2 degrés Celsius pourrait, à l'horizon 2050, réduire de plusieurs centaines de millions le nombre de personnes exposées aux risques liés au climat et vulnérables à la pauvreté, alerte le GIEC dans son rapport 2018. Les gaz déjà dans l'atmosphère ne risquent pas de faire augmenter la température davantage qu'ils ne l'ont déjà fait. Même si les changements sont probablement irréversibles, nous aurions donc pu atteindre la cible de 1,5 degré Celsius si nous avions mis en œuvre les recommandations du GIEC et d'autres groupes d'experts. Toutefois, cette cible serait déjà impossible à atteindre. Et cette impossibilité amène la possibilité de basculement, à savoir des transformations abruptes du climat et des écosystèmes après l'atteinte de certaines températures, comme le dépérissement et la disparition de la forêt amazonienne ou du pergélisol, par exemple, qui par ailleurs mènerait à la libération des gaz à effet de serre qui y sont absorbés et donc à une crise encore plus catastrophique. Changer de voie? Le problème est que nous continuons à produire du CO2. Le GIEC suggère quelques pistes pour diminuer la production de gaz à effet de serre, diminuer la demande en énergie généralement parlant, mais surtout celle qui produit ces gaz, diminuer la consommation de biens matériels et diminuer la consommation d'aliments qui demandent une grande production de ces gaz. Or, la baisse de la consommation pose deux problèmes qui peuvent sembler impossibles à régler. D'une part, certaines régions du monde sont déjà habituées à une surconsommation de biens. D'autre part, l'éradication de la pauvreté suppose un accès à davantage de biens de consommation et de production dans beaucoup de régions du monde. Autrement dit, il sera difficile de demander à certaines populations de consommer moins, mais il sera éthiquement et pratiquement impossible de demander à d'autres populations de ne pas consommer plus qu'elles ne le font en ce moment. Pour répondre à ces limites, le GIEC indique la nécessité d'une transition systémique, à la fois politique et économique, appuyée sur la coopération internationale. Cette transition irait de pair avec une transformation des comportements économiques, tant en termes de gestion de la production que de décisions individuelles quant à la consommation et aux priorités gouvernementales. Allant plus loin dans la même direction, les peuples autochtones parlent de transformation qui commence avec une vision du monde où l'humanité est unie à la Terre et a ainsi une responsabilité sacrée d'en prendre soin. Avant tout, les solutions commencent avec le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et des peuples affectés par le changement climatique, ce qui suppose que le leadership leur revienne dans la détermination et la mise en œuvre des solutions qui les affecteront davantage que les peuples les plus pollueurs. Changer de direction. Ainsi, il s'agit non seulement de changer de vitesse ou de voie, mais aussi de s'orienter différemment pour emprunter une nouvelle direction. Plusieurs parlent désormais de transition socio-écologique, un processus par le bas qui affecterait non seulement les comportements, mais également les relations humaines et les relations à la Terre. Une réponse à la catastrophe climatique passerait ainsi par une transformation sociale et économique. D'autres parlent même de bifurcation, d'un changement soudain pour empêcher les effets les plus abrupts du changement climatique, puisqu'il ne resterait plus suffisamment de temps pour réussir une transition et que les effets de la catastrophe seront eux-mêmes soudains. La décroissance est également une approche souvent proposée. Celle-ci consiste notamment à abandonner l'objectif de la croissance économique comme mesure du progrès, du succès et du bien-être, pour penser le développement de manière humaine, sans la croissance. Pour y arriver, on pense à une lutte pour la justice écologique, ou encore à un soulèvement qui consisterait en la création d'un mouvement social qui s'opposerait de manière réformiste ou radicale à la manière actuelle de gérer l'économie. De telles luttes sont déjà engagées et des alternatives sont déjà mises à l'essai dans certaines communautés et la créativité est certainement de mise pour répondre à la crise en cours. Jérôme Melançon est professeur agrégé en études francophones et interculturelles, ainsi qu'en philosophie à l'Université de Regina. Ses recherches portent notamment sur la réconciliation, l'autochtonisation des universités et les relations entre peuples autochtones et non-autochtones, sur les communautés francophones en situation minoritaire et plus largement sur les problèmes liés à la coexistence. Il est l'auteur et le directeur de nombreux travaux sur le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont « La politique dans l'adversité, Merleau-Ponty aux marges de la philosophie », Métis Press, 2018. C'était « Climat, crise et catastrophe », un texte de Jérôme Melançon paru le 16 août 2023 dans l'Eau vive de la Saskatchewan.